vous avez le pied au niveau de la chaussure. On reste dans le cadre d'une finale, je n'en veux plus. C'est clair ?
Voilà. Non, je n'ai pas touché.
Déjà de
non.
Salut tout le monde, c'est Abdallah et vous écoutez Banquette, votre podcast foot, culture et société. Après une rentrée à la cool avec l'épisode table ronde spéciale Ligue des Champions, Banquette revient aux fondamentaux avec une longue interview, ce qui fait le charme de ce podcast. Et je dois vous avouer que quand même, ça m'avait bien manqué. Alors pour ce retour aux sources, il fallait une personnalité très forte, avec un caractère bien trempé, quelqu'un qui n'a pas peur de dire les choses et qui a marqué la Ligue 1 lorsqu'il était entraîneur de Lévian Tonon-Gaillard et de Toulouse. Vous l'avez deviné, il s'agit de Pascal Duprat et vous verrez dans cet épisode l'entraîneur haut-savoyard s'exprime avec franchise, qu'il s'agisse de régler ses comptes avec certains journalistes ou consultants, d'évoquer ses doutes et ses échecs ou de parler de sa terre d'origine, la Haute-Savoie. Avec lui, on a parlé en long et en large du TFC, de ses souvenirs d'enfance et de ses idoles de jeunesse, mais aussi, évidemment, de Lévian Tonon-Gaillard, une histoire d'amour qui a viré à la haine. Allez, trêve de blabla, Banquette saison 3, épisode 2, c'est maintenant.
Bonjour Didier.
Celle-là, on la garde. Hein. Celle-là, on la garde.
Bonjour Abdallah.
Bon, première question avant toute chose, comment ça va? Comment tu vas?
Ça va très bien.
Bah, ça fait plaisir de te voir et de t'entendre aussi. Ça fait un petit moment qu'on t'a pas vu, on t'a vu un peu pendant la Coupe du Monde, mais c'est vrai, après Toulouse, on t'a pas trop vu. Et j'ai envie de dire, t'es un peu un personnage important du football français. Tu l'es devenu, ça fait plaisir, tout simplement.
Ben c'est gentil, compliment sympa, je savais pas que j'étais important.
Ah, c'est l'équipe qui l'a dit à un moment, tu faisais partie des personnages les plus importants du football français, donc voilà.
Comme quoi les journalistes vous racontent pas que des conneries.
Effectivement. Alors, tu sors un livre qui s'appelle... Une saison avec Pascal Dupraz, leçon de leadership, qui est coécrit avec Frédéric Rémillet, avec une très belle préface de Didier Deschamps, mon sosie. Et donc ce livre revient sur ta troisième saison au TFC, mais avant d'en parler, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière sur ton arrivée à Toulouse. Donc quand tu arrives là-bas, le club est relégable, ils sont à 10 points du 17e, il reste 10 journées à jouer, et toi tu viens, et je me dis, mais... Pourquoi tu viens en fait? C'est un plan galère, mais pourquoi tu viens?
Parce qu'il faut travailler. Non, je viens parce que ça fait 9 mois que je suis sans coacher et que j'aime ce métier-là. Je viens de me faire virer lamentablement par des pseudo-amis que nous avions installés à la tête de l'ETG et qui ont flingué le club en un an. Donc, j'ai des fourmis dans les jambes et j'ai envie de reprendre. Les propositions à l'époque n'étaient pas souvent celles que j'espérais. Et puis voilà que le TFC, en extrême difficulté, me contacte. Je rencontre le président. Je sais que c'est une grande ville. Je sais que c'est un club qui vient de passer 13 ans consécutivement à l'époque en Ligue 1. Je sais qu'ils sont en difficulté récurrente depuis quelques années, qu'ils sont en déficit d'amour. Et puis je me dis, j'avais dit à mon entourage que j'aimerais entraîner de nouveau en Ligue 1. Mais jusqu'à preuve du contraire, Toulouse était encore en Ligue 1, même oui. S'il avait 9 doigts de pied.
C'est ça. Mais le pari est complètement fou, parce qu'il me semble, je l'ai lu en préparant l'épisode, je crois que depuis la création du football professionnel, aucun club avec 10 points de retard sur le premier non relégable s'était sauvé. Et toi, tu acceptes ce pari complètement fou et t'y arrives. C'est ça qui est encore plus fou.
Bon, ce sont les joueurs qui ont réalisé cet exploit-là. Après, c'est pour ça qu'on nous paye pas suffisamment cher à mon goût, mais on nous paye nous entraîneurs. C'est donc qu'on doit avoir une certaine utilité. Oui, les joueurs ont réalisé cet exploit-là, mais j'ai presque envie de dire, on aurait dû se maintenir avant. On aurait dû ne pas jouer ce match décisif contre Angers, parce que je me souviens de matchs à Saint-Etienne où on surclasse les Verts et malheureusement on ne fait que match nul parce que Ruffy arrête tout. Je me souviens d'un match à Lorient où on gagne 1-0 et puis au bout du bout, à la 91e minute je crois, Lorient égalise alors qu'on doit gagner. Donc c'est ceci pour dire que...
Ces moments-là, tu te dis pas... En fait, on va pas y arriver. Tu y crois toujours quand même malgré ces éléments contraires qui.
Il faut aussi replacer les choses dans leur contexte. À partir du moment où je suis arrivé face au président Sadran qui me dit je cherche un entraîneur pour amortir la chute et pour remonter de Ligue 2 en Ligue 1. Donc le boss du TFC avait déjà acté la relégation. J'étais en face de lui. J'ai regardé mon agent qui était à côté de moi. J'ai demandé à mon agent si j'étais bien à Toulouse, le club de Ligue 1. Qui devait encore disputer 10 matchs et qui avait encore 30 points à glaner. Et donc, j'ai mon agent de l'époque, Stéphane Coincoin, qui m'a dit « Oui, on est bien à Toulouse. » Donc, j'ai dit au président Sadran « Je crois que votre club doit se sauver. Et pour qu'il se sauve, il faut commencer à changer votre discours. »
Ouais, dans la vie de tous les jours, est-ce que t'es comme ça, d'un naturel optimiste, à croire vraiment aux choses, aller au bout des choses ?
J'ai des coups de blues, j'ai des coups de mou, mais je crois que je suis optimiste. Il faudrait peut-être, là encore une fois, demander à ma femme, ou demander à mes gamins, demander à tous ceux qui me connaissent. Bon, moi, j'incarne la joie de vivre, malgré tout. J'ai eu des malheurs comme tout le monde dans ma vie. J'ai la vie qui m'a marqué quelquefois, bien marqué aussi, parce que j'ai des soucis de santé, donc je me dis que c'est relativement court la vie, donc autant la passer avec le moins de mélancolie possible.
Donc tu fais tout pour que ce soit le plus agréable possible.
Contrairement à ce qu'on aux idées préconçues, aux idées arrêtées, je suis tout sauf un gueulard. Je suis tout sauf un garçon austère. Je suis plutôt déconneur.
Oui, tu fais des blagues, je confirme.
Voilà. Par contre, je crois pouvoir dire que dans mon métier, dans mon travail, je suis extrêmement sérieux. Donc quand je suis arrivé à Toulouse, c'est comme si j'étais rentré dans une salle complètement noire, obscure, avec des gens vêtus de noir, avec des peaux sans connotation raciale, hein, avec des peaux ternes, avec des sourires absents, avec des mines tristes. On avait l'impression que le ciel leur tombait sur la tête, et je crois, là encore une fois... pour avancer qu'en l'espace de 24 heures, j'ai remis du soleil dans le vestiaire du TFC et j'ai fait croire à des joueurs à mon histoire. Ouais. Et mon histoire, c'était se maintenir.
Et justement, le maintien, tu l'obtiens, enfin vous l'obtenez lors de la dernière journée, un match incroyable contre Angers, à Angers, si je ne me trompe pas. Et ce qui a surtout marqué les gens, au-delà du match, hein, c'est ce fameux discours. Je l'ai encore revu. Ça te donne des frissons, vraiment.
Paraît, ouais.
Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce speech que tu l'avais préparé ? Est-ce que mot pour mot, tu avais prévu de dire ça ou tu t'es laissé un petit peu emporter ? Tu as improvisé au fur et à mesure
du
discours ?
En fait, c'est une question qu'il faudrait poser aux nombreux joueurs que j'ai coachés. J'en ai coaché beaucoup parce qu'on me connaît au travers de la Ligue 1, mais le club de l'ETG, plus particulièrement le club du FC Gaillard, je l'ai pris en tant qu'entraîneur, il était en honneur régional et il a terminé en Ligue 1 20 ans plus tard. Donc des générations de joueurs, j'en ai vu passer. Et il paraît qu'en plus de certaines qualités d'entraîneur, j'ai de bonnes qualités d'orateur et je suis capable de captiver, de raconter des histoires. Donc ce que j'ai dit au travers de ce discours à Angers, c'est pas quelque chose que j'avais préparé, ou en tout cas, si je l'ai préparé pendant la nuit, comme d'habitude. J'ai structuré mon discours tout au long de la semaine, mais tout ceci se passe au niveau du cerveau, parce que j'ai une chance terrible, c'est que j'ai un cerveau dans ce métier où apparemment on n'en a pas beaucoup. Donc j'ai réfléchi à ce que j'allais dire, mais aussi j'ai fait preuve de spontanéité, parce que pour toucher les gens, je crois qu'il faut être spontané.
Et tu te rappelles de discours que tu avais déjà fait à Toulouse avant, ou même à l'ETG,
oui.
Un peu dans la même veine, ouais, c'est pas la première fois que
pas
tu fais ça.
Pas toujours dans la même veine, mais des discours qui impactent, des discours qui captivent. Je me souviens d'une remarque d'un entraîneur prestigieux, Christian Gourcuff, pour ne pas le nommer. Apparemment, il ne maîtrise pas ce genre d'exercice et il dit que ça ne sert à rien. Voilà, je suis d'un avis contraire. Ça, certainement des bienfaits. C'est pas ce qui fait gagner des matchs, mais une mauvaise causerie peut faire perdre un match, ou en tout cas peut faire perdre l'adhésion des joueurs au coach.
Bah justement, pour toi, l'aspect psychologique, ça a, en termes de répartition, à quel point c'est important dans la préparation d'un match avec la tactique, si tu devais faire diagramme.
Je vais davantage généraliser, je vais faire... encore une fois, c'est un avis, c'est difficile de le quantifier. Mais pour moi, la confiance déjà, la confiance en soi, qui est plus importante que la confiance des autres vers vous. D'abord, avoir confiance en soi, je pense que c'est 60% de la performance.
Ah ouais.
C'est plus que la moitié. Ou alors, on n'aurait pas des écarts sur deux matchs, comme on a pu le voir lors de la remontada parisienne, je parle du match au Barça, Paris écrase Barcelone, et puis 15 jours après, je crois, ou une semaine après, se fait défoncer
au Camp Nou.
S'il n'y avait pas là la dimension psychologique, eh bien, les écarts n'existeraient pas, c'est-à-dire les matchs différents n'existeraient pas, les performances différentes chez un joueur n'existeraient pas. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, les joueurs sont... On arrive à athlétiser les joueurs de telle sorte que pendant peu ou prou, pendant 10 mois, les joueurs sont prêts physiquement. Donc il y a d'autres, à mon avis, il y a d'autres aspects. C'en est qu'un, mais c'est un aspect important, l'aspect psychologique.
Donc 60% de psychologie, 40% après de travail, on va dire, entre guillemets, tactique, c'est ça ?
Alors à Toulouse, moi on me réduit à la portion non pas congrue, mais on dit que je suis un pompier. Mais bon, quand on regarde jouer Toulouse, dès lors que je prends l'équipe en main, elle est complètement transformée. Alors elle est transformée parce qu'elle est plus velléitaire, peut-être. Elle est transformée parce que les joueurs sont plus libérés. Mais elle est surtout transformée parce que tactiquement, j'ai apporté des choses. Malheureusement, nous avons des consultants en France qui n'ont jamais enfilé un survêt qui disent que je suis une pince. Mais c'est la vie, c'est comme ça. C'était de grands joueurs, mais ils n'ont jamais voulu se mettre en survêt. Par contre, ils sont toujours en train de donner des leçons. Mais moi, je voudrais bien les voir en survêt.
Voilà. Ouais, tu penses à qui en disant ça ?
Oh, il y en a beaucoup, des consultants prestigieux qui envoient du bois.
Ouais. Toi, tu n'es pas du genre à envoyer du bois en tant que consultant ?
Non, jamais.
Non, jamais.
Non, mais aussi, j'ai de la retenue, puis aussi parce que je sais ce que c'est que souffrir sur un banc de touche. Je sais ce que c'est qu'être entraîneur, quoi que ces garçons-là en disent. Je sais quelle est la complexité du métier. Je sais aussi que pour être un bon entraîneur, il faut déjà avoir de très très bons joueurs. Mmh. Et que bien souvent, le gros du métier d'entraîneur, il se passe pendant le mois ou le mois et demi de mercato. Si on veut bien recruter, en règle générale, on fera un meilleur entraîneur que si on ne recrute pas.
Bah, c'est ce que tu dis à un moment dans le livre à Frédéric Rémillet. Tu dis qu'à un moment, après ta première saison, donc vous vous maintenez. Non, je crois que c'est après la deuxième saison, vous vous maintenez encore, vous finissez 13e, si je ne me trompe pas. La saison finit le 20 mai. Et tu dis que la saison 2017-2018 commence le 22 mai, soit 2 jours après. Mm-hmm. Parce que le mercato, c'est là où vraiment tout se joue. C'est vraiment comme ça que ça se passe pour un club.
Ouais. Ouais. Pour les clubs comme Toulouse, mais les clubs comme Toulouse, il y en a 15. C'est-à-dire, il y a une quinzaine de clubs dans le championnat de France qui peuvent finir une année 5e et l'année suivante 20e. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'écart. Et l'écart, il se situe bien sûr dans le travail que l'on fournit tout au long de l'année, mais il se situe aussi dans les efforts de recrutement que les clubs et que les dirigeants voudront bien faire. C'est très complexe, la machine, l'organisation d'un club de football professionnel. Si vous avez un directeur sportif qui ne fait que vous filer des pots de banane sous les pompes, sous prétexte qu'il ne peut pas vous blairer, fatalement, ça va être compliqué, on va perdre du temps. Et dans ces clubs-là, on est concurrencé. Parce qu'il n'y a pas que Toulouse qui veut recruter des joueurs de qualité. Il y a les 15 autres aussi.
C'est ce qui s'est passé à Toulouse. T'as mis des pots de banane comme dans Mario Kart ?
Non. J'ai rien à dire de désagréable sur le TFC. Bien au contraire, c'est un très bon club. J'ai eu un rapport privilégié avec le président Sadran, qui est une personne extrêmement correcte, qui gère sa boutique. Il la gère à sa manière. Et il se trouve que sa manière est peut-être pas la mienne, mais ce sont pas mes ronds. Donc je vais pas faire le consultant, celui qui dit sans savoir. Mais moi, c'est pas mon argent, c'est le sien. Moi, je sais une chose, c'est que Toulouse accomplit cette année sa 16e saison consécutive en Ligue 1 et qu'il y a peu de clubs qui l'ont fait. Alors, il y a un petit déficit d'image. On a l'impression quelquefois qu'ils sont bien entre eux, qu'ils se reconnaissent entre entre amis fidèles. Mais là, encore une fois, quand je dis ça, c'est pas une critique. Mieux vaut travailler avec ses amis fidèles que travailler avec des traîtres.
Ouais. Et juste pour revenir sur ta deuxième saison à Toulouse, ça se passe, j'ai envie de dire, plutôt bien. En tout cas, la première partie, vous faites des gros cartons, vous battez Paris, vous battez Monaco, vous êtes premier à un moment aussi au classement. Je crois à la trêve, vous êtes huitième. Ça se passe super bien. Après, bon, il y a un petit...
On fait 30 journées dans les 10 premiers. Et malheureusement, sur la fin, on ne confirme 38, pas. Hein, ouais. Et malheureusement, sur la fin, on ne confirme pas. Mais pour mémoire, on manque déjà 2 ou 3 pénaltys sur les derniers matchs. Et si on les marque, on prend 6 points de plus, donc on finit 7e. C'est comme ça. Mais j'avais bien relevé, quoi qu'on en dise, ce club qui, normalement, parce que là aussi, de temps en temps, faut savoir tirer la couverture à soi. Je vous disais tout à l'heure que ce sont les joueurs qui sont maintenus à Toulouse et il a bien fallu quelqu'un pour les bouger, quelqu'un pour les faire courir tous ensemble et bien ensemble. Si Toulouse est bien classé cette année, ils le doivent à leur recrutement, ils le doivent à la pertinence de l'entraîneur qui est Alain Casanova. Mais il oublie de dire une chose, quand je le lis, c'est qu'il me le doit aussi. Parce que normalement, Toulouse ne devrait pas être en Ligue 1, si j'en juge à ce que me disait le président quand il m'a
recruté. Et il y a un truc sur lequel je voulais revenir aussi sur Toulouse, c'est que quand tu es arrivé, en tout cas surtout sur la deuxième saison, on a l'impression que... Il y a eu une espèce de ferveur populaire dans Toulouse autour du foot. Moi, c'est une ville dans laquelle je vais souvent, que j'aime beaucoup. Mais vraiment, le rugby, c'est le sport principal. Et quand tu étais là-bas, on avait l'impression qu'on parlait beaucoup plus de Toulouse parce que tu étais là et parce qu'aussi, il y avait les résultats. Deuxième saison, comme je l'ai dit, vous étiez, tu l'as dit toi-même, 30 fois dans les 10 premiers sur 38 journées, ce qui est plutôt énorme. Et est-ce que toi, tu l'as ressenti, cette ferveur dans la ville autour du foot, alors que ce n'est pas une ville vraiment de foot, Toulouse?
Je vais apporter un bémol à ce que tu dis. C'est davantage une ville de foot qu'on veut bien le croire. C'est bien sûr une ville aussi de rugby, parce que le Stade toulousain est un club merveilleux et qui a trusté les titres en France et aussi en Europe pendant de nombreuses années, qui a eu un petit coup de mou et qui revient. Là, je salue Hugo Mola et mes amis rugbyman parce que j'aime le rugby aussi. Il se trouve donc que le foot est aimé beaucoup. En Occitanie, on aime beaucoup le TFC. En ville, on aime bien le TFC. Moi, j'ai eu des rapports extrêmement privilégiés avec les supporters. Je me souviens une fois d'être descendu du bus et je voyais tout le monde avec ma gueule. Je me suis dit, qu'est-ce que ce bordel ? J'ai pété un câble, je suis devenu fou. Et en fait, ils avaient tous des masques à mon effigie. C'est des choses... Ça marque dans une vie d'un modeste entraîneur que je suis. Je ne pense pas que ça se refera. Enfin, j'espère. Si jamais on mettait mes masques de nouveau, ça voudrait dire que mes performances sont intéressantes. Mais oui, bah, j'ai boosté un peu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bah, ils vivaient reclus. J'ai ouvert le centre d'entraînement. Parce que le premier jour où je suis arrivé à Toulouse, j'ai dit au président, écoutez... Il y a 20 petits vieux qui sont sur le pont là, qui mène au stadium. Ils se penchent, ils se fracturent les cervicales pour regarder l'entraînement. Bon, pour moi, c'est complètement ridicule. Je ne comprends pas pourquoi. D'ailleurs, là, encore une fois, je ne me fais pas toujours que des amis. Mais il y a des clubs en France où on peut ouvrir les entraînements. Il y en a d'autres où on ne peut pas ouvrir parce qu'il y a une ferveur populaire telle qu'on ne peut pas ouvrir. Ou en tout cas, on peut ouvrir, mais de manière très organisée. On réclame, on espère tous, nous, footballeurs, ou ceux qui en vivent, de jouer devant des tribunes pleines. Et voilà pas qu'on entraîne les joueurs dans des plaines vides. Je comprends pas. On veut s'entraîner dans le calme, dans la paix, mais je comprends pas toujours. Le week-end, il y a bien du brouhaha, c'est ce qu'on souhaite. Donc autant entraîner les joueurs dans leur contexte. C'est déjà la première remarque, celle qui me vient là à l'esprit. La deuxième, c'est que notre sport est un sport populaire. Les gens qui viennent au stade payent. Ils viennent pour vous applaudir. Je pense que si on les accueille à l'entraînement, si on crée un lien avec eux, ils auront moins tendance à vous siffler dès lors que l'équipe jouera moins. C'est une deuxième remarque que je veux faire. Donc je ne comprends pas pourquoi dans certains clubs à dimension, on va dire, taillée normalement, pourquoi on n'ouvre pas les terrains d'entraînement. Alors, on me rétorque ce que c'est, par exemple, parce qu'on ne veut pas être copié, on ne veut pas être épié. Non, mais avec les télés, tout ce que vous mettez en place,
ça se retrouve dans la
dès
presse.
La première journée, la journée suivante,
tous les autres clubs savent ce que vous faites.
Bah, de toute façon, on le voit même pendant les Coupes du Monde, avec les champions, entraînement à huis clos, mais on sait dans quel dispositif voilà. était l'équipe.
Parce qu'il y a des balances. Alors donc, plutôt que d'essayer de stigmatiser, mais qui balance, autant faire venir tout le monde, et puis à la limite, comme je le fais souvent, parce que alors là, encore une fois, une autre chose que je ne comprends pas, c'est taire, cacher la composition d'équipe. Non mais comme si le fait de cacher les 11 et de les révéler une heure avant le match ou 30 minutes avant le match, ça allait changer la face du monde. Si le type il a les pieds octogonaux, que tu fais jouer l'ailier gauche, que tu lui l'ai dit à tout le monde une heure avant ou que tu l'ai dit la veille, les pieds octogonaux, il les aura toujours.
Ouais, et la ferveur que tu as amenée à Toulouse, ça me fait penser un peu à ce qu'on peut retrouver dans certains clubs en France. Moi, je pense à, par exemple à Marseille quand Guéret était là ou quand Bielsa était là. C'est des entraîneurs qui en fait permettaient de renouer avec cette ferveur populaire du football dans la ville. Après, il y a eu des entraîneurs où en fait la ferveur a diminué, mais ça permettait de retrouver ça. Et moi, je candidat à Toulouse, ça m'a fait penser à ça en fait. Tu as l'exemple des masques. C'est typiquement les trucs qu'on voit dans des clubs où l'entraîneur vraiment apporte un afflux de popularité et populaire en fait. Je sais pas si
Parce que le foot est populaire.
Ouais.
Et parce que moi je suis pas carriériste. Parce que je me contrefous de ce qu'on pense de moi en fait. Voilà. Et tous les jours que Dieu fait, je me dis que j'ai beaucoup de chance de faire ce que je fais. J'ai beaucoup de chance de te répondre. Voilà, parce que là, j'ai l'impression que je fais l'important, mais en fait, je suis monsieur tout le monde. Hein. Donc, et surtout, j'ai souvent coutume de dire que je vaux un, comme toi, comme tout le monde. Pas plus, pas moins, je vaux un. Et voilà, et je sais que j'ai une chance terrible, donc je n'ai pas à me la jouer, je n'ai pas à me la raconter. J'ai du respect pour ceux qui aiment le foot. Quand je suis arrivé à Toulouse, je voyais des joueurs rentrer directement au vestiaire sans aller saluer les supporters. Eh bien, voilà, dès lors que je me suis aperçu de cette chose inadmissible, j'ai dit à mes joueurs, quel que soit le résultat, staff compris, parce qu'il faut savoir aussi que quelquefois, si les joueurs montrent pas le bon exemple, c'est parce qu'il y a des membres du staff qui rentrent direct. Vous comprenez ? Donc j'ai dit à tout le monde, staff compris, messieurs, notre mission à la fin des matchs, à domicile, c'est de tourner, d'applaudir, qu'on ait gagné, qu'on ait perdu. Voilà. Bon, il y a un intellectuel des consultants modernes et qui a dit que je me prenais pour un autre parce que je tournais. Ça, c'était à l'issue de la victoire contre Paris Saint-Germain. Mm-hmm. Non, mais le problème, c'est que comme il n'était pas dans le vestiaire les semaines avant, il ne sait pas que moi, en fait, pédagogiquement, j'ai dit à mes joueurs, tournez pour remercier les spectateurs. Et cette espèce de con, il n'a eu pas d'autre truc qu'à dire que je me la jouais et que je volais la vedette aux joueurs.
Malheureusement, l'aventure à Toulouse s'est terminée. T'es pas allé au bout de la troisième saison. C'est qu'en janvier 2018, tu quittes le TFC après une défaite 2-1 contre Montpellier. Et dans le livre, quand tu parles à Frédéric Rémillet, je t'ai trouvé vraiment très touchant. Mais vraiment, quand tu évoques cette fin de parcours, tu émets des doutes sur un possible rebond. T'es lucide sur ta personnalité et que tu juges clivante. J'ai presque l'impression, quand j'ai lu ça, que t'avais peur pour la suite. Tu savais pas ce qui t'attendait. Et vraiment, je trouvais ça assez fort, ce recul, en fait, sur cet échec. On peut appeler ça comme ça. C'est vraiment toi, cette capacité vraiment à analyser les choses avec beaucoup de recul et aussi à douter.
La peur, non, parce que la peur n'évite pas le danger. Donc, j'ai jamais peur. Voilà, j'ai peur d'une chose, c'est de mourir. Voilà, ça, c'est un lieu commun que de le dire. Il faut savoir que j'ai décidé d'arrêter au TFC et que mon président a acté le fait que je parte, et je l'en remercie, que je suis parti, c'est suffisamment rare pour le souligner, à ma demande, et qu'il m'a payé tout ce qu'il me devait.
Ça, on le voit dans le livre.
Quand, par exemple, j'ai passé 20 ans à l'ETG, 20 ans de ma vie, 14 ans de bénévole. Il me restait 6 ans de contrat à l'ETG, 2 ans comme entraîneur, 4 ans comme directeur sportif. Ils m'ont viré comme un malpropre. Okay, donc il faut savoir faire la distinction entre un seigneur qui est le président Sadran et des branquignoles que sont Timbac et Bakhtiar. Ça n'évoque rien, mais c'est deux types qui ont traversé l'époque du football à l'ETG pendant une année pour tout défoncer. Donc j'ai décidé d'arrêter au TFC parce que j'avais des soucis de santé, ça c'est la première raison. Et
peut-être qu'elle était encouragée par le fait qu'on n'avait pas de résultats, alors que franchement, je pensais qu'on allait être constant. Donc, on a maintenu l'équipe la première année, fini 13e alors qu'on était souvent dans les 10 premiers et la deuxième. Je pensais que la troisième, nous allions confirmer et enfin montrer le renouveau et la constance dans le renouveau du TFC. Ça n'a pas été le cas. La responsabilité m'en incombe, il n'y a pas que la mienne, mais moi j'assume ma part. Voilà, j'entends jamais dire personne, j'assume ma part. Moi j'assume ma part de responsabilité dans le relatif échec du TFC. J'aurais maintenu, je pense, l'équipe si j'étais resté, mais il n'y aurait pas eu beaucoup de marge. Il faut le concéder. Et donc ce qui me fait dire que je peux douter, c'est ben, ça c'est un échec. Je suis clivant et en plus je suis malade. Donc, loser, clivant et des soucis de santé. Donc, je me suis dit, à l'époque, je me suis dit, ça va être chaud pour retrouver un club qui correspond à l'idée que je me fais d'un club de football. Mais depuis, il y a des mois qui ont passé.
Et là, ça va mieux.
J'ai retrouvé la santé, je suis en forme. Il faut estimer le travail de Pascal Duprat de deux manières, les temps longs et les temps courts. Si on prend les temps longs, à part Giroud, peu de coachs ont fait gravir les échelons à un club du 8e jusqu'au premier niveau. Il n'y en a pas beaucoup. Si vous en avez d'autres que Roux et moi, vous m'appelez. Et donc ça, c'est le temps long. Ça veut dire que j'ai eu souvent des résultats. J'ai fait des coups aussi en Ligue 1 qui sont mémorables. Lévian Tonon-Gaillard, il s'est sauvé un jour à Sochaux alors que tout le monde pensait qu'il allait descendre. Nous avions le plus petit budget pendant 4 ans en Ligue 1. On a résisté. Ce n'était pas toujours moi, attention, hein, parce que j'ai eu à certaines périodes le rôle de directeur sportif, qui est un rôle très important. L'entraîneur qui a fait monter le TG de National en Ligue 2 et de Ligue 2 en Ligue 1, c'est Bernard Casoni. Donc il faut aussi le souligner. J'ai été un acteur prépondérant, je le dis. Aller à Sochaux gagner 3-0 alors que tout le monde pense qu'Hervé Renard va nous manger parce que Sochaux remonte, c'est pas trop mal. Aller en finale de Coupe de France alors que ça fait 3 ans que vous êtes professionnel et se faire battre par Bordeaux 3-2 dans un stade plein alors que tout le monde disait avant le coup que ce match allait être un match de merde et qu'il y aurait personne au stade. Et puis la remontada à Toulouse, c'est pas mal non plus, quoi.
Oui, c'est pas mal.
Donc,
non
voilà,
plus.
J'ai deux, trois cordes à mon arc. Malheureusement, j'ai pas de titre. J'espère en avoir un jour. Il faut pas désespérer. Et puis surtout, j'espère continuer à assouvir ma passion.
Ouais. Et au final, qu'est-ce que tu retiens de ton passage à Toulouse? Le club, la ville, les gens, le climat, qu'est-ce que tu retiens de ce passage dans la ville rose ?
Le climat, c'est assez trompe-l'œil parce qu'on pense qu'il fait, comme on se dit dans le sud, non, on se dit je suis dans le sud, donc tu te dis qu'il fait toujours soleil, quoi. Mais il pleut beaucoup. La ville, superbe. Que du bien, en fait. Le club, super bien administré. Jean-François Souka, c'est un président délégué d'exception. Le président Sadran, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, après, le centre d'entraînement, c'est le plus pourri des 43 ou 4 clubs professionnels. Voilà, il est obsolète depuis peut-être 20 ans. Mais encore une fois, voilà.
Mais toi qui es au Savoyard, tu te sentais bien dans cette ville ?
Ah oui, très bien, ouais. Non, mais moi, j'ai passé que des moments super, y compris quand ça tournait pas, c'est comme ça. Ça, la carrière d'entraîneur, elle est faite pour la plupart d'entre nous de bons et de moins bons moments. Et voilà, on ne retient bien souvent que les top coachs. Zinedine Zidane, il entraîne, le premier club qu'il entraîne, c'est le Real Madrid. Donc, bon, il est très très bon, attention, hein. Mais bon, il a aussi du matos, quoi.
Ah, c'est marrant que tu dis ça, parce que ça me fait penser à cette fameuse sortie, je crois, sur Pep Guardiola. Mm-hmm. J'ai plus les mots exacts, hein, donc je voudrais pas déformer tes mots, donc je vais pas réinventer une phrase, mais c'était à peu près que...
Oui, Pep Guardiola, voilà. Il a commencé avec Barça, quoi.
C'est ça, ouais.
Et bon, moi, j'ai commencé avec le FC Gaillard en honneur régional. Mais bon, je suis pas Pep Guardiola. Hein.
Ouais. Donc c'est plus difficile, qu'est-ce qui est plus difficile, c'est...
Non, je sais pas. Je sais pas, j'ai jamais coaché une équipe faite de constellations d'étoiles. Donc je sais pas, certainement que c'est très dur aussi.
Ouais.
Mais ça doit pas être le même job.
Je pense aussi. Je pense aussi. Et justement, on parle de coach, on parle de coaching. Et c'est quoi le style du Prat?
Moi, j'aime les équipes qui vont vite vers l'avant, les équipes qui pressent constamment. J'ai été marqué par l'Ajax d'Amsterdam. J'ai adoré Alex Ferguson, sa capacité à faire jouer son équipe et bien jouer son équipe. On avait l'impression, quand Manchester n'avait pas le ballon, que le terrain était rétréci, et quand ils attaquaient, que le terrain s'élargissait. Donc voilà, moi je suis pour la transition. Après, si j'ai demain des joueurs qui sont capables de posséder et de jouer un jeu de possession, je le ferai bien volontiers.
C'est plus sur la verticalité, c'est ça, ouais.
Oui, mais parce que les équipes que j'ai coachées n'avaient peut-être pas la possibilité d'assumer la possession. Mmh. Voilà, c'est tout. Et après, j'en connais un rayon, en tout cas, j'en connais autant que tous ceux qui en parlent.
Bah, sont tes coachs, donc si t'es là, c'est pas... c'est
mais
pas
j'ai l'humilité nécessaire, parce que je sais une chose, c'est que plus on a le sentiment de connaître le football, moins on le connaît. Et il faut avoir été entraîneur pour s'en rendre compte de ça. Est-ce qu'il vous joue des tours, le foot.
Est-ce que tu te définirais comme quelqu'un de plutôt dogmatique ou assez pragmatique, justement, dans ton approche du coaching? Tu disais que t'aimes bien le jeu de transition, mais que si t'avais les joueurs pour...
Je pense que la qualité d'un entraîneur, c'est aussi savoir s'adapter.
Ouais.
Donc voilà, faut maîtriser un tas de paramètres, faut essayer de les maîtriser de la meilleure façon possible. J'ajoute une chose, les staffs sont extrêmement importants, parce que vous agissez, vous, coach général, comme un généraliste, mais vous avez tout un tas d'entraîneurs qui ont des spécificités dans votre staff. Et le choix de ces entraîneurs qu'on dit entraîneur adjoint, mais que je nomme en tout cas personnellement jamais comme des entraîneurs adjoints, mais comme des entraîneurs à part entière, ceux-ci ont un rôle extrêmement important.
Ouais. Dans ton staff, c'était quoi ils avaient quel rôle, les entraîneurs adjoints?
Ils portaient pas les plots. Hein,
ouais.
Si j'en juge au témoignage que je reçois, tous les gens qui ont bossé avec moi ont eu plaisir à travailler avec moi parce que je savais les mettre en valeur. Mmh. Et aussi, mon côté humain ressortait aussi avec ces personnes-là. Le staff médical, par exemple, à Toulouse, ils gardent un très très bon souvenir de moi.
C'est-à-dire?
Mais parce que le côté humain m'importait beaucoup, quoi. Chacun était à sa place. Voilà, je trouve que une saison en Ligue 1, c'est une aventure, et cette aventure, elle est partagée par bien sûr des joueurs, des membres du staff technique, mais aussi tous ceux qui gravitent autour. Et il est important de ne pas laisser les gens pour compte. Ça, c'est mon avis.
Ouais, mais c'est important pour toi de vraiment dire bonjour, par exemple, à tous les gens du club, que ce soit
médecin, bien sûr,
au personnel d'entretien, à l'intendant, vraiment.
Ouais, c'est important. Ouais. Ouais. Ouais, c'est important. Moi, je me souviens d'un intendant à Toulouse qui s'appelait Jean-Paul. Jean-Paul, c'était l'intendant du centre de formation qui venait le matin. Il faisait très très bien son boulot. Il venait uniquement le matin avec les pros. C'est un type extraordinaire avec qui j'avais envie de. Je serais allé au bout du monde pour lui. J'aurais voulu que le TFC gagne une coupe juste pour lui, juste pour Serge Général, par exemple. Le patron des profs au centre de formation. Et un mec d'une culture incroyable, avec qui j'aimais passer des moments. Oui, c'est important de tisser des liens avec tout le monde.
Ouais. Ouais, dans la vie de tous les jours, tu es comme ça aussi, tu marches beaucoup à l'affect, à l'humain, c'est ça? Tu es plus sur l'empathie, j'ai envie de dire.
Encore une fois, il faudrait demander à mon entourage s'ils pensent que j'ai des défauts, hein, beaucoup.
Non, mais dans ta manière d'interagir avec les gens, tu es...
Je pense être d'un naturel gentil, voilà. Je pense être abordable, sociable, ouvert. J'écoute. J'ai aussi cette capacité d'écoute. C'est important d'avoir la capacité d'écoute. Je suis pas toujours en train d'en imposer. Il faut savoir écouter. Ça, je le dois à mes parents aussi. J'ai des parents qui étaient cultivés, qui m'ont bien élevé apparemment.
C'était comment ton enfance justement?
Top.
Ouais.
Ah ouais, ouais. Extraordinaire.
Ton enfance en Haute-Savoie. Bah raconte-nous un petit peu.
Mon enfance, c'est déjà, j'étais un très bon élève. Et en fait, j'ai des parents qui étaient à la fois mes parents et à la fois mes frères et sœurs, mes amis, parce qu'ils n'avaient que 20 ans de plus que moi. Et ma mère avait un commerce, donc elle avait un bar. Et mon père était un très très bon footballeur amateur. Donc je regardais jouer mon père tous les dimanches et je rêvais que d'une chose, c'est de...
De faire comme lui.
De faire comme lui.
C'était ouais. un peu ton héros.
C'était mon idole.
Ouais.
Ouais. C'était mon idole.
Plus que des joueurs pros de l'époque.
Ouais, parce que je te parle de ça, j'avais 10 ans. Et à 10 ans, on n'a pas cette faculté d'analyse qu'on peut avoir plus tard. Pour moi, le meilleur joueur du monde, c'était mon père. Et d'ailleurs, tu vois, comme quoi, je peux là encourager et susciter des vocations chez les jeunes. Moi, j'avais 8 ans, la première fois que j'ai joué au foot, donc 8 ans. Je me souviens que les 6 premiers mois, on me faisait tout le temps porter les buts. Tu sais, on jouait à 7, à cette époque-là. Mmh. On jouait à 7 et on mettait les buts en travers. Et on portait les buts à cette époque-là. Mais moi, j'étais le premier pour porter les buts. L'entraîneur, il me disait, Pascal, tu portes les buts. Et je jouais qu'à la fin, une minute. Je jouais 2 minutes. Je dis, putain, je suis là pour porter les buts, moi. Je rentrais chez moi. Mes parents me disaient, t'as bien joué? Ben, je dis, bah oui, j'ai porté les buts. Moi, il faut savoir que j'étais obèse. J'étais gros, tu vois. Donc, j'arrivais pas beaucoup à me mouvoir. C'est certainement pour ça qu'on m'avait dit, porte les buts. C'était costaud, quoi. Voilà, et puis en l'espace d'un été, j'ai grandi, pas beaucoup, hein, puisque je suis le plus grand nain de France depuis. Mais je me suis affiné.
Ouais.
Et là, j'ai commencé à jouer, j'ai commencé à être pas trop mal. Ouais. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne.
C'est de l'histoire ancienne, ouais, c'est vrai que tu as été joueur professionnel pendant longtemps, tu as joué attaquant.
Ouais.
C'était qui tes références à l'époque?
Johan Cruyff. Voilà, quel joueur. Michel Platini, j'ai eu la chance de jouer contre. Michel Platini, je me souviens, j'étais au centre de formation du FC Sochaux. À cette époque-là, c'était une école de formation très réputée, le FC Sochaux. Et je me souviens un jour, un match Sochaux-Nancy, Platini en face. En fait, tout ce qu'on voulait que Platini fasse, ou que n'importe quel joueur fasse, je pense que ça vous arrive quand vous regardez un match, vous dites, tiens, il devrait faire ça. Au moment où tu dis ça, il l'a déjà fait. Et Platini, il anticipait, il faisait avant que vous-même, assis dans les tribunes, vous l'ayez vu, il l'avait déjà fait. C'est un joueur incroyable.
Ah ouais?
Ah ouais, putain.
C'est vrai que pour les gens de ma génération, on sait qu'il était très fort, mais on ne l'a pas vu jouer tous les week-ends, ou même en équipe de France. C'était vraiment top. Si incroyable, ouais.
À top niveau.
Top, top, top.
Oh là là.
Ah ouais,
oh
ouais.
La classe.
Ah, on voit dans tes yeux, ça brille là.
Ah ouais, Cruyff, c'était... Je me souviens, la Coupe du Monde en Allemagne, en 74, je suis chez mes grands-parents, je ramasse des framboises tout l'été, et je regarde les matchs de la Coupe du Monde, et je suis déçu que l'Allemagne gagne contre la Hollande en finale.
Comme
c'est
beaucoup,
mes premières émotions de foot. Ouais. Et putain, l'Ajax Amsterdam, tout ça, c'est quelque chose qui... Ce sont des équipes qui me marquent, ouais.
À part l'Ajax et...
Manchester, je te l'ai dit tout à l'heure, Manchester. C'est Manchester de Beckham et compagnie, Giggs. Ouais. Et toute la clique, là, je kiffais.
Ah ouais?
Ah
ouais. Et aujourd'hui?
Aujourd'hui, j'aime bien le Paris Saint-Germain. Voilà. Je dis ça pour faire chier les provinciaux. même si je suis un provincial, mais j'espère qu'ils vont gagner la Champions League. Je supporte pas qu'on soit pas, justement.
Derrière le club?
Partisans des clubs français dès lors qu'ils sont sur la scène européenne. Comme, tu sais, j'ai travaillé pour TF1 pendant la Coupe du Monde, je me suis laissé, comment dire, décevoir par certaines attitudes, c'est-à-dire des gens qui espéraient, pourtant qui étaient partie prenante, qui espéraient que la France ne gagne pas la Coupe du Monde. Ah ouais. J'ai du mal à piger ça, voilà.
Il y a vraiment des gens qui ne voulaient pas ?
Ah ouais, ouais. J'ai dit avant, surtout ceux qui ont eu des succès. Surtout ceux qui l'ont gagné. C'est ça, je trouve ça incroyable.
Tu penses à qui là?
Je pense pas, je te dis. Je trouve ça mais incroyable.
T'as du mal à concevoir qu'on puisse pas.
Complètement.
Mais enfin, au-delà de l'équipe de France, pour la culture club.
Par-delà le fait, ou au-delà du fait que la France, celui qui veut juger que la France a mal joué, pas mal joué, on s'en fout de ça. Ils ont gagné, ils ont une étoile de plus. Voilà. Et ceux qui ont gagné en 98, ils ont toujours gagné. Hein. Même là, alors qu'il y a une deuxième étoile. Hein. Au contraire, ça ravive les souvenirs. Donc ça leur fait encore plus de bien.
Donc tout ce débat sur le jeu, et la victoire.
Top coach, Deschamps, number one.
Ouais.
Deschamps, c'est top. Top coach, il a une analyse, une faculté d'analyse incroyable. Voilà, il incarne le succès. Top coach, point, barre.
Tu dis pas ça parce qu'il va, il fait la préface de ton livre, hein, j'espère.
Ça n'a rien à voir. Je lui ai demandé, il l'a faite et je lui en remercie. Mais ça n'a rien à voir, c'est top coach. Ouais. Avant le début de la Coupe du Monde, tu vois, comme quoi de temps en temps, j'ai des visions. J'ai dit, moi, sur le plateau de TF1, hein, si vous pouvez reprendre, j'ai dit, on me demande qui va gagner la Coupe du Monde. Mais la France. Voilà. Et je me suis persuadé que ça allait être la France. Mais Didier Deschamps, top sélectionneur.
Ouais. Cette Coupe du Monde, comment tu l'as vécu ? Tu étais consultant sur TF1, mais...
Super.
Ouais.
J'ai vu des matchs, j'ai rencontré des gens, mais j'ai apprécié le foot. Alors, à sa juste valeur, j'ai pas vu que des bons matchs, y compris l'équipe de France. Mais aujourd'hui, le foot, c'est extrêmement difficile. Il n'y a plus de petites nations. Et puis, ça a fait la part belle aux équipes qui étaient extrêmement solides défensivement et qui contraient rapidement. Voilà ce qu'on appelle le jeu de transition rapide. Voilà, toutes les équipes qu'on possédait de façon stérile, à l'instar de l'Espagne, sont passées par la fenêtre.
Ouais.
Ceux qui étaient déséquilibrés, l'Allemagne était complètement déséquilibrée. L'Allemagne joue bien, attention, joue très bien au foot. Mais là, il se trouve qu'ils étaient complètement déséquilibrés, que tous les matchs que l'on a vus de l'Allemagne, ils n'ont jamais pris de sécurité défensive. Donc, ils sont passés par la fenêtre. Voilà ce qu'on a pu voir tout au long de la Coupe du Monde. Et puis, il y a une équipe avec un entraîneur extrêmement intelligent, pragmatique, qui a su analyser les forces en présence et qui a fait jouer son équipe, lui a fait croire à son projet et qui, au bout du compte, est allé, cueillir
la deuxième étoile.
Voilà.
Ouais. Quel match t'as le plus marqué de l'équipe de France sur l'Argentine.
L'Argentine,
le 4-2.
Ouais, Mbappé m'a impressionné. Mais je crois que le défenseur central argentin, il avait une caisse à outils dans le dos, non?
Ah ouais, ou peut-être c'est Mbappé qui court vraiment très vite. Hein.
Non, mais il lui a mis une double accélération à un moment donné, mais j'avais mal pour lui.
Donc c'est vraiment ce match-là qui t'a, qui t'a le plus plu.
Ouais,
c'est quoi c'est le scénario, c'est
le scénario, puis aussi l'Argentine, c'est une grande nation. Messi apparemment Messi il faisait l'équipe, donc là aussi l'équipe de France, c'est aussi la victoire d'une cohérence à tous les étages. Un président de fédé qui adoube son sélectionneur, qui le laisse travailler, un sélectionneur qui choisit les joueurs qu'il veut pour aller à la Coupe du Monde, même si ça fait débat, et puis ensuite qui croit en ses joueurs, en son équipe, qui n'hésite pas à privilégier la forme du moment plutôt que la carte de visite. Et puis ça donne des milliers de personnes sur les Champs-Élysées.
T'as beaucoup parlé de Deschamps avec son superbe travail avec l'équipe de France, la deuxième étoile, tout ça. Comme j'ai dit, il signe la préface de ton livre. Moi, j'avoue, ça m'a un peu surpris. Je savais pas que vous étiez. Je sais pas si vous êtes proche, mais pourquoi tu as demandé à lui et pas à un autre entraîneur?
Parce que ça, pour moi, ça tombait sous le sens. Voilà, c'est Bradostras, c'est le joueur qui a tiré. Le joueur Didier Deschamps était un joueur. Tout le monde, j'entends dire que Didier Deschamps était un joueur moyen. Non, c'est un joueur exceptionnel parce qu'il a tiré la quintessence de ses qualités.
Je te coupe juste sur le joueur moyen. Enfin, c'est un peu une aberration quand tu as joué à l'OM, tu as remporté avec des champions, tu as joué à la Juve en étant hyper important.
Non, mais on l'a entendu.
Oui, ouais, mais c'est. Je trouve ça un peu aberrant. Mais
voilà. C'est un top joueur. Ouais, c'est-à-dire qu'il a tiré le meilleur de lui-même. Ouais. Voilà. Il avait cette faculté déjà lorsqu'il était joueur à être entraînant par son attitude de footballeur, mais aussi certainement par la voix. Et puis entraîneur, voilà, c'est chapeau, casquette, point barre, sélectionneur top. Et il n'a pas fini parce qu'il va encore gagner des titres.
Je pense.
En plus, il a la chance, c'est que chaque fois qu'on gagne une étoile, il en a une de plus sur la tête. Parce qu'il a aussi. Mais ça fait partie du job. Tout le monde dit qu'il a la chance avec lui, mais il sait la provoquer. Oui, il a la chance, mais il sait la provoquer. C'est un entraîneur qui gagne, voilà, donc bravo.
C'est pour ça que tu voulais absolument.
Oui, j'aurais voulu. Bah, moi qui gagne peu, je me suis dit, tiens, Deschamps va peut-être me permettre de gagner. Non, mais je ne le remercierai jamais assez. C'est pas ce qui fait booster les ventes de notre livre, qui marche bien d'ailleurs, mais bon, vous ne gagnerez rien d'ailleurs non plus, parce que les maisons d'édition, ils vous saignent. Mais ça, c'est le côté savoyard. Parce que nous, on jette l'argent par les fenêtres dans les pays de montagne, mais de l'extérieur vers l'intérieur.
Incroyable. Et pour revenir à Deschamps, il a vraiment des mots très sympathiques, très forts à ton égard. Mmh. Il dit même qu'il se retrouve un peu en toi, vous êtes un peu pareil.
C'est gentil.
Ce côté un peu...
il est basque.
Voilà, basque, t'es au Savoyard. Proche de son village, de sa région, exactement. Mmh. Et même dans l'approche du jeu, c'est aussi, tu te retrouves un peu dans...
J'ai vu l'AS Monaco jouer lorsqu'il était entraîneur au début, très bien joué. Je vois ses équipes. Surtout, ce que j'observe, c'est que toutes ces équipes savent très bien gagner.
Ouais, moi, je le sais, mais moi, je supporte l'OM, donc je l'ai vu très bien gagner le championnat de France en 2010 avec l'OM. Moi, ça m'a fait extrêmement plaisir. Voilà. Et c'est lui qui a ramené cette culture, enfin, qui a ramené la gagne à Marseille, alors qu'on ne l'avait plus depuis 17 ans, quoi. Donc, c'est. Il y a vraiment ce truc-là de winner, j'ai envie de dire. Et pour venir sur toi en tant que coach, entre ta première expérience en Haute-Savoie et ta dernière à Toulouse, qu'est-ce qui a changé ?
J'ai montré que je pouvais exporter ma manière de faire, donc ça c'est important pour moi. Donc j'espère avoir pris du crédit, parce qu'on me cantonnait sur l'homme d'un seul club. Après, qu'est-ce qui a changé ?
Dans ton approche, est-ce que ta manière de jouer, c'est la même
tous
que...
Tous les jours, j'essaie d'apprendre. Mais encore une fois, ça, en termes de stratégie, je ne suis pas trop pour tout dire, tout dévoiler. Non pas que je veux être secret, mais je trouve que ça devient banal, quoi. Moi, j'aimerais que mon équipe... Alors, comme ça, tout le monde, va dire que je suis un esthète du football. J'aimerais que mon équipe marque un but après... 60 passes consécutives, 3 minutes de possession de balle, que l'équipe adverse soit travaillée de gauche à droite, puis de droite à gauche, que ça se termine par un exploit sur le côté, une roulette à Mario, par-dessus le défenseur, un centre au cordeau et un ciseau retourné dans la lucarne. Voilà mon style.
Voilà ce que j'aime.
Voilà ce que j'aime.
C'est ton but de rêve ?
Voilà.
Ouais.
C'est mon but de rêve. Mais je travaille pour ça. C'est pas moi qui fais le ciseau retourné, j'arrive
plus à sauter.
Non.
Et du coup, quel rapport tu as avec tes autres confrères entraîneurs ? Donc là, Deschamps a fait ta préface, mais comment tu t'entends avec tes collègues de Ligue 1 en général ?
Je m'entends bien. Ouais. Voilà. Après l'espace d'un match, ce sont des adversaires. Mmh. Voilà. Mon objectif, c'est d'être l'adversaire de mes collègues entraîneurs deux fois par an. Voilà. Et tous les moyens licites sont permis pour essayer de les battre. Et puis, une fois que ce match-là est terminé, voilà, pour moi, on passe à autre chose. Alors, si le coach adverse il n'est pas content après moi, tant pis, je m'en fous. Okay, parce qu'en fait, ça fait 56 ans que je vis sans être l'ami de tous les coachs de Ligue 1. Donc, je peux faire une 57e année, c'est pas grave, ça. Voilà. Donc, mais par contre, j'ai pratiquement avec tous de très bonnes relations.
Ouais, voilà. Vous discutez de quoi quand après
de rien, match, parce qu'on se voit au travers d'un match, on se serre la main, on se dit bon match. Déjà, on est complètement faux cul, parce que quand on se serre la main, bon match, en fait, ce qu'on devrait dire, c'est mauvais match. Ok. Mais donc non. Après.
Mais faut le faire quand tu reprendras un banc. Tu diras mauvais match à ton adversaire.
Non, des fois je dis rien. Je préfère, je dis rien, je serre la main. Eux, pour dire que je. Voilà, moi j'accepte. Ça fait longtemps quand on est sportif qu'on apprend à perdre, même si on refuse la défaite, il faut la proscrire. Mais voilà, fair play, je sais ce que ça veut dire. Et par contre, non, j'ai des relations courtoises, mais des relations qui n'existent pas, parce que 330 jours dans l'année, on est plongé dans notre métier avec nos joueurs et notre club.
Il n'y en a pas un ou deux, j'en sais rien, avec qui tu...
Sylvain Ripoll, j'adore.
Ouais.
C'est un bon pote. Oswald Tanchot au Havre, c'est un bon pote, j'adore. Qui j'adore encore ? Hervé Renard, on a fait la paix. Il est savoyard comme moi, j'adore. Voilà, Didier Deschamps, on en a parlé. Claude Puel, j'avais une admiration pour l'entraîneur qu'il était. Parce que avant Lucien Favre et avant Patrick Vieira, il y a eu Puel.
Ah oui, il a fait un travail exceptionnel.
Il a fait un super travail. Qui encore ? J'aime bien Galette. Voilà, c'est un super gars. Je les aime tous, je peux tous te les citer. Il y en a.
Mais c'est, pourquoi tu les aimes bien, c'est pas une question de jeu, c'est une question de personnalité.
De toute façon, encore une fois, moi je fais partie de ceux qui considèrent que il est dangereux sur 10 personnes d'en aimer 10, comme il est tout aussi dangereux sur 10 personnes d'en aimer aucune. Voilà. Donc, celui qui est à peu près, voilà, on va dire, franc du collier, sur 10 personnes, il va en apprécier 5-6.
Donc sur 40, le ratio, il a combien là, 40 clubs professionnels?
Vas-y, fais-le le ratio. Hein, tu fais une règle de 3. Hein. Tu fais une règle de 3, puis tu trouves.
Hein. Ok. on va partir là-dessus. Et on va revenir un peu à tes origines, à la Savoie, la Haute-Savoie. Mm-hmm. Tu me dis si je me trompe, est-ce que je peux dire Savoie ou il faut vraiment que je précise Haute-Savoie?
Non, en fait, pour moi, il faut dire Savoie.
D'accord.
Parce que la Savoie est une, est indivisible. Parce que la Savoie était jusqu'en 1860 un pays. Et parce que j'aimerais que... Voilà, on élargit les régions, mais je pense que c'est une hérésie. Et parce qu'une chatte, il retrouverait plus ses petits. Moi, j'ai rien. J'adore les Auvergnats, mais je suis Savoyard avant tout. Donc voilà, ça c'est la précision. Donc pour moi, je suis né en Haute-Savoie. Mais en fait, je suis né en Savoie.
Mais c'est quoi la Savoie? Ça comprend quel département?
C'est les deux départements. D'accord. C'est une partie du Val d'Aoste, voilà, qui est aujourd'hui italien. C'était un pays jusqu'en 1860. On frappait monnaie. On avait deux fois plus de lettrés en Savoie qu'on en avait en France à l'époque. Ah ouais. Et malheureusement, il y a eu un traité d'annexion qui nous a fait être aujourd'hui français rattachés à la France. Mais moi, j'adore les Français et je me sens français. Hein. Voilà, mais Savoyard avant tout.
Savoyard, c'est vraiment important cette identité Savoyard.
Ah ben oui,
ouais.
Bien sûr.
Je
comprends pas pourquoi aujourd'hui, comme on le voit en Bretagne ou en Corse ou en Provence, je comprends pas pourquoi nos villages n'ont pas leur nom en Savoyard.
Ouais.
Et qu'en français, j'arrive pas à comprendre que dans certaines mairies de mon pays, il n'y a pas le drapeau savoyard. Qu'il y ait le drapeau européen, qu'il y ait le drapeau français, il n'y a pas de problème, mais il devrait y avoir le drapeau savoyard. Mais encore une fois, ce que je dis là, c'est légaliste, pacifiste. Voilà, je suis ni autonomiste, ni quoi que ce soit. Voilà, mais je
revendique juste ta région, quoi.
Ma région, et puis comme les Basques, voilà, moi j'ai une fierté absolue à porter le drapeau de Savoie. Voilà, la Croix des Neiges sur fond de braise, pour moi, ça représente quelque chose. Voilà.
Parle-nous un peu de ce pays, de cette terre. Moi, c'est une région que je ne connais pas du tout. Donc, je pense
la mer
auditeurs...
à la montagne, on dit.
C'est ça.
Tu vois, il y a des lacs magnifiques. Le plus grand d'Europe étant le lac Léman. Le lac Léman, là, les eaux territoriales françaises du lac Léman sont plus vastes que les eaux territoriales suisses. Donc, il est plus en France qu'en Suisse, le lac Léman. Même si les Suisses, c'est des top aussi. Hein. La Suisse, c'est top. Franchement, c'est
jamais
un superbe pays. Vraiment, nos amis suisses, ils sont exceptionnels dans leur manière de concevoir les choses et d'être administrés politiquement, c'est top. Parenthèse.
Ouais.
Le pays de montagne, voilà. Plus de soleil que certains veulent bien le dire. Bien sûr, des hivers rigoureux, ce qui fait nos caractères bien trempés. Voilà, c'est vraiment un beau pays, des pays de cocagne, voilà, des pays où on a l'atavisme du travail, où en règle générale les gens travaillent, et ça s'explique par le passé, par le fait que comme le relief est important, comme le pays est montagneux, pour aller commercer nos ancêtres, il fallait qu'ils soient courageux, il fallait marcher, il fallait monter, il fallait descendre. Donc ça fait des volontaires.
Ouais, toi tu te reconnais là-dedans, un travailleur.
Oui.
Ouais.
Ouais, mais je suis un besogneux. J'ai pas de talent du tout, mais je suis besogneux, voilà.
Et un truc avec cette région que je connais encore une fois pas très bien.
Il faut venir, je vais t'inviter.
Bah avec grand plaisir.
Voilà.
Avec grand plaisir. C'est dans l'imaginaire un peu collectif, on imagine que c'est une région un peu que de ski, de montagne, tout ça. Et quand Lévion Tonon-Gaillard est monté en Ligue 1, c'était un peu une surprise de dire que dans ces terres il y a du foot qui existe, alors qu'on n'a pas l'impression que c'est vraiment une terre de foot. Comment toi, t'es venu justement à ce sport? Tu dis que c'était par ton père, mais comment on percevait le foot justement en Haute-Savoie?
Parce qu'en fait, comme c'est le sport numéro un, le sport de base, c'est aussi le sport de base chez nous. Hein. Même si ça s'arrête l'hiver parce qu'il neige, mais encore que aujourd'hui... avec le réchauffement climatique, il y a moins de neige en plaine qu'il n'y en avait avant. Non, mais on aime les sports de montagne, on aime les sports individuels, mais on aime aussi le sport collectif et on aime le football. Il y a beaucoup de clubs, il y a beaucoup de licenciés dans le district de Haute-Savoie, Pays de Gex. C'est l'occasion pour moi de saluer tous les bénévoles bien sûr dans mon département, mais aussi tous les bénévoles qui officient en France, parce que grâce à eux, on gagne aussi la Coupe du Monde. Donc le foot pour moi, c'était, voilà, ça a toujours été, comme je vous le disais tout à l'heure, important. Il faut avoir joué au foot pour comprendre. Je me souviens partir du bar de ma maman pour aller au stade. Il me fallait 20 minutes pour y aller à pied avec mes copains. Et quand il commençait à pleuvoir, je craignais que l'entraînement soit annulé. Donc quelquefois, c'est arrivé. Quand il neigeait, que l'entraînement soit annulé, et je rentrais chez moi fort déçu. C'est aussi cette camaraderie, c'est aussi ce partage que l'on trouve dans le sport collectif en général, mais dans le foot en particulier. Donc je l'ai vécu voilà, dans mon pays de montagne, et les terrains sont plats aussi, on arrive à le faire.
Ils ne sont pas penchés. Et un des trucs, c'est que comme tu l'as dit, et je pense que tout le monde le sait, tu as entraîné le club de Lévion Toulon-Gaillard. Mmh. Est-ce que pour toi, c'était une espèce de rêve qui s'accomplissait d'être entraîneur principal en Ligue 1, chez soi? Est-ce que c'était vraiment un rêve qui s'accomplissait à ce moment-là?
Un rêve que je n'avais pas imaginé. Donc, en 91, quand j'ai, à la demande de mes dirigeants, j'ai supplanté un entraîneur qui s'arrêtait. Et j'ai entraîné donc ce club en honneur régional. Je m'imaginais pas que j'allais aller en Ligue 1. Par contre, je m'imaginais travailler pour faire en sorte de structurer le club et de faire revenir le foot professionnel dans ce département-là. Annecy et Thonon avaient déjà été des clubs professionnels en D2 à l'époque, en Ligue 2 donc. Mon objectif avoué, c'était de faire en sorte que ce club soit un jour en Ligue 2. Mais de là à ce qu'il aille en Ligue 1, de là à ce qu'il fasse une finale de Coupe de France.
C'était au-delà de tes espérances?
Ouais. 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 Et après, c'était au concours, à la faveur de concours de circonstances, de rencontres, de malice aussi. Il a fallu que je sois malicieux. Aussi, pour certains m'ont décrit comme quelqu'un qui n'avait pas l'esprit de clocher, parce que j'ai initié certaines fusions avec d'autres clubs pour avancer. Imaginez-vous, quand Ribou, le PDG du groupe Danone, vous dit « Moi, je soutiens ton club à condition que tu viennes jouer dans le Chablais, c'est-à-dire à Thonon et Évian, là où je peux légitimer mon sponsoring parce que j'ai les eaux d'Évian là-bas, bah, vous y allez. Voilà. » Nous, on jouait dans l'agglomération annemassienne, dans un petit stade, dans une petite commune de 10-12 000 habitants qui s'appelait Gaillard. Alors, j'ai fait des malheureux quand j'ai accepté avec d'autres cette fusion, mais ça a permis au club d'aller jusqu'en Ligue 1.
Ouais.
Ouais, parce que sans Ribou, on n'y va pas en Ligue 1. Bon, après, il n'a pas fait que des choses bien, mais voilà. Et au moins, je lui dis, moi. Et en plus, je lui fais un message, j'ai envoyé un texto, il ne m'a pas répondu. Ça fait longtemps maintenant, c'était la mort de mon papa. Donc, Ribou, si tu m'entends, réponds-moi.
Ça t'a déçu, choqué qu'il ne réponde pas?
Pas déçu, c'était sûr qu'il n'allait pas me répondre.
Ah ouais, pourquoi?
C'est la vie, c'est comme ça. Mais ça, c'est lui et moi, c'est pour ça que je lui fais un message.
Et ce que tu réussis à Évian Toulon-Gaillard, ça va un peu à l'encontre, tu sais, de cette maxime qu'on dit d'être prophète en son pays. Est-ce que tu avais l'impression un peu de lutter contre des courants alors que tu étais chez toi pour t'empêcher justement
de l'extérieur beaucoup. Ouais. J'en ai vu là. J'en ai vu passer des... Ouh là là, c'était très compliqué. Mais rien que le fait de l'évoquer, ça me met de l'urticaire, parce que j'ai oublié tout ça.
Ouais.
Je suis déçu pour tous les gens qui ont rêvé, et tous les gamins surtout. On avait réussi à faire quelque chose de bien, à faire rêver des gamins, à faire une école de formation très cohérente, parce qu'il y a de très très bons athlètes. Il faut savoir que les gamins en montagne, ils naissent pas avec un chromosome football en moins, hein. Ils sont sains de corps et d'esprit, ils sont costauds, ils mangent bien.
Le chromosome F, comme tu l'appelles.
Ils peuvent courir, hein, ils peuvent y aller. Hein. Et puis en plus, ils ont de la dextérité. Donc non, c'est juste dommage. Mais c'était quasi injouable. Il y avait des bosses de partout. Puis chacun voulait tirer sa couverture. Donc fatalement, au bout d'un moment, la couverture, elle se déchire. Hein.
Et comment tu fais pour garder un peu la tête froide aux sportifs, alors qu'au-dessus, Comme tu dis, il y a des tensions.
Bah, y a ceux qui disent, c'est facile, encore une fois, j'en ai jamais entendu un dire qu'il avait des responsabilités. Moi, j'en ai des responsabilités dans l'échec de l'ETG.
C'est quoi les TNC?
Déjà, premièrement, j'étais l'entraîneur quand l'équipe est descendue de Ligue 1 en Ligue 2. Donc, j'ai ces responsabilités-là. Mais j'ai aussi ces responsabilités. C'est qu'à un moment donné, j'avais le pouvoir de faire arrêter tout le monde, de les mettre tous aux ordres. Mais je ne l'ai pas fait. C'est une erreur. Voilà, j'ai fait une grave erreur. J'aurais dû dire arrêtez, on siffle la réclée, arrêtez de vous battre. J'aurais pu le faire, je pense qu'ils allaient le faire. Ça allait coïncider avec le départ de certains qui sont arrivés à la tête du club. Mais si j'avais dit stop, vous arrêtez, tout le monde serait arrêté et le club aurait certainement continué. De là à dire qu'il serait resté en Ligue 1, c'est impossible. Mmh. Parce que la première année, si ma mémoire est bonne, le club avait 32 millions de budget, la deuxième année 30, la troisième 28 et la quatrième 26. Donc c'était le seul club au monde qui, quand il reste au meilleur niveau, perd du budget.
Comment ça se faisait ?
Allez poser la question à ceux qui envoyaient les talbins.
Hein. Et comment toi tu faisais alors pour... maintenir le club avec un budget qui diminue.
Vous avez des joueurs. La première année, vous avez des joueurs que vous recrutez à 60 000 euros mensuels. Puis la dernière année, vous avez des joueurs que vous recrutez à 20 000. Voilà. Et puis après, on vous dit, mais putain, l'arrière gauche que t'as pris, là, putain, il est pas bon. Ben non, mais il est pas bon, mais.
J'ai pas le budget.
Le problème, c'est que j'ai pas le budget, parce qu'il y en a une quarantaine de meilleurs que lui. Mais je le savais à l'avance qu'il y en avait 40 de meilleurs que lui.
Après, ce qui est arrivé à l'ETG, t'as dit que tu voulais pas. Enfin, si c'était à refaire, tu le referais pas.
Non.
Parce que ça t'a fait vraiment très mal.
Ah oui, oui.
Ce qui est arrivé au club.
Mais... Non, mais surtout ce qu'on a fait à mon papa, mon père. C'est pour ça que je fais un message à Ribou. Mmh. Ah non, ce qu'on a fait à mon père, c'est un scandale.
C'est-à-dire ? Mais pour ceux qui ne savent pas.
Non, mais mon papa, c'était un mec exceptionnel. S'il y a eu du foot professionnel en Haute-Savoie, c'est parce que mon père, un jour, il a allongé de ses deniers personnels. Mais ça, c'est de l'histoire ancienne, mais il se trouve que mon papa est décédé depuis. Donc voilà, à l'époque, pour que Danone vienne, il fallait éponger des dettes. Mon père était un dirigeant, on va dire, juste parce que c'était le père de l'entraîneur. Il n'avait pas de velléité. Mais quand il s'agissait donc d'éponger les dettes, et Dieu sait si elles étaient conséquentes, plus de 300 000 euros, bah tous les dirigeants qui, par contre, étaient là depuis longtemps, ils sont tous barrés, quoi. Il n'y avait personne qui voulait payer, donc il n'y en a qu'un qui s'est retrouvé à payer, c'est mon père. Voilà.
Ah ouais, je savais pas.
Si mon père ne paye pas, il n'y a pas de foot. Danone ne vient pas, donc il n'y a pas de Ligue 1, il n'y a pas de National, il n'y a pas de Ligue 2.
Ah oui, c'est...
Ce que je dis, c'est vrai. Hein.
Et malgré tout ça, qui est quand même assez, assez triste... Et ce qui est arrivé au club après, qui est aussi assez triste, enfin très triste, tout ce qui est positif, donc la montée en Ligue 1, les maintiens, la finale de Coupe de France, ça ne te dit pas, tu ne te dis pas, ok, il s'est passé ça, le club il est descendu très bas, et ce qui s'est passé avec mon père, mais d'un autre côté, j'ai vécu des choses très très fortes avec un groupe très fort dans ma région, et j'ai fait un exploit sur plusieurs saisons. Ça, tu ne te dis pas que si c'était à refaire, tu le referais ?
Non, mais je passerai pas 20 ans de ma vie, je n'y laisserai pas ma santé, parce que j'y ai laissé ma santé aussi. Je ne laisserai pas ma santé, et puis... Bon. Je le referai autrement. C'est à un moment donné, on avait la possibilité, mais on était naïfs. Non pas que mon père soit naïf, mais il faut savoir qu'il n'était pas fortuné, mon papa. Mais bon, quand tu commences à envoyer 350 000 euros de ta poche quand tu n'as pas beaucoup de ronds, c'est-à-dire toutes tes économies, à un moment, tu te dis, pourvu que ça cesse, donc tu passes le bébé à quelqu'un, tu vois. Mais on a fait une connerie, parce qu'on aurait dû mieux se défendre, on aurait dû avoir davantage de parts dans le club, pour être certain qu'on assure une certaine forme de pérennité. Voilà, mais bon, ça y est, c'est terminé. Moi, ce qui me gêne, c'est que quand on dit « nul n'est prophète en son pays », j'ai été adulé à Toulouse et j'ai été controversé dans mon pays. C'est-à-dire que dans mon pays, il y en a un sur deux qui me déteste et un sur deux qui m'aime bien. Alors peut-être qu'ils ont des bonnes raisons de me détester. Il y a beaucoup, certainement, je crois, beaucoup de gens jaloux, mais il y a aussi des gens, je ne sais pas, ils me détestent. Voilà.
Est-ce que ton entourage te donne un peu des idées, en tout cas d'endroits où on aimerait bien que tu ailles dans un club un peu au soleil, pas trop au nord, près de la mer. Est-ce que ta femme ou tes enfants te font des réflexions comme ça ?
J'ai cet avantage-là, c'est que tous ceux qui sont autour de moi sont déjà mes premiers supporters. Parce que c'est difficile d'être dans l'entourage d'un entraîneur de foot. C'est pas difficile d'être entraîneur. Souvent, je le dis, je l'ai encore dit hier à Lyon, là, quand je dédicaçais mon bouquin. C'est difficile d'être au chômage, c'est difficile de gagner le SMIG quand t'as deux gamins. C'est difficile d'être malade. C'est pas difficile d'être entraîneur de foot. Épisodiquement, c'est relou. Voilà, mais c'est pas difficile. Faut le dire. Non, mais ils sont tous derrière moi, donc ils savent tous que c'est ma passion. Moi, je me suis fixé un âge. J'aimerais arrêter d'entraîner à 60 ans. Et il se trouve que je viens d'avoir 56 ans la semaine dernière. Donc il me reste 4 ans. Mais le problème, c'est que si sur ces 4 ans, si je reste 4 ans sans club, ça voudra dire que c'était fini à 55.
T'as de l'espoir de retrouver un club ?
Oui, mais ouais. Je vais retrouver, c'est sûr.
C'est quoi ton plus beau souvenir à Evian Thonon Gaillard ?
Finale de Coupe de France.
Ouais.
Evian Thonon, je m'en fous. Gaillard, là, je m'en fous pas. Evian Thonon Gaillard. Quand je vois Gaillard affiché derrière les buts, là, oh, je dis, c'est pas possible, là, je rêve.
C'est quoi le plus beau ? C'est le voyage ou c'est tout le parcours en Coupe de France et
ouais,
le fait d'arriver en finale ?
Battre le Paris Saint-Germain. Par exemple, j'ai souvent battu le Paris Saint-Germain. Battre le Paris Saint-Germain en finale de Coupe de France, je me rappelle d'Ibra qui part du rond central pour aller tirer son pénalty. Il a mis 3 jours jusqu'au point de pénalty. Putain, tous les gens dans les tribunes, ils étaient là, ils retenaient leur souffle. Ibra, putain, il n'y a rien qui bougeait, les muscles. Laquelle arrête. Top. Au pénalty, on menait 3-0. Parce que laquelle arrêtait les trois premiers. Bon, après, c'était du velours. Hein.
Ouais.
Ah ouais.
Donc le plus beau souvenir, c'est et même dans ta carrière d'entraîneur, ça reste le plus beau.
Ah ouais, finale de coupe. Moi, mon rêve absolu, c'est de gagner. Mais il faut comprendre, c'est mon niveau, c'est pas trop mal quand même. Hein. J'ai entraîné en Ligue 1, mais je sais que probablement, j'entraînerai pas des équipes top. Mais si un jour je pouvais gagner une coupe, ouais, je peux mourir après.
Comme disait
Thierry Roland.
Ouais. Bah, ça fait une belle conclusion à cet épisode.
Attends, on va attendre un moment avant de mourir.
Bah, ça, c'est sûr. Bah, merci beaucoup,
merci
Pascal,
à vous.
D'être venu.
Top.
Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite ? La santé ?
Ouais, la santé.
Et le travail.
Je suis en forme, là.
Ouais, la santé, le travail.
La santé pour mes proches, et puis, tu sais quoi, qui est plus de chômeurs, qui est plus un SMIG à 1200 brut, que les gens gagnent tous au moins 2000 balles par mois, et qu'on s'aime, voilà, que les gens s'aiment, voilà. Et puis tous au foot, voilà, femmes et enfants, tous au foot à supporter vos équipes respectives.
Parfait. Voilà. Donc amour, allez, travail,
allez
santé.
Donc, allez l'OM pour toi.
Ah oui, 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 voilà. oui
j'aime
important.
Bien l'OM. Hein. J'aimais moins les quand l'OM venait jouer à Toulouse, j'aimais moins les Toulousains qui supportaient l'OM. J'arrivais pas à comprendre ça. Voilà.
Ouais, malheureusement, c'est
ouais,
merci.
Chapeau.
Merci beaucoup, merci Pascal. Et puis, bah, bonne continuation pour la suite. Et merci. On espère sur un banc de Ligue 1 ou ailleurs, mais sur un banc. Mais
j'espère pas me casser la gueule, surtout quand je vais être sur un banc.
Surtout. Merci, à bientôt. Merci à Pascal Duprat d'avoir accepté notre invitation. Si vous souhaitez réagir à cet épisode, comme d'habitude, ça se passe sur nos réseaux Twitter, Facebook et Instagram. Et si cet épisode vous a plu, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcasts. Bien sûr, un grand merci aux banquettistes comme d'habitude pour votre soutien et vos messages. Et on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Ciao ! Banquette est une émission de nouvelles écoutes animée par Abdallah Swadri. Prise de son réalisée par Charles Decilia. Mixage réalisé par Thibaut Delage à l'arrière-boutique studio. Coordination Laura Puissard avec l'aide de Marie Jactel.